Au Brésil, c'est aujourd'hui le dernier jour pour déposer les candidatures en vue de la présidentielle du 7 octobre prochain. Et la particularité de cette campagne électorale, c'est que le favori des sondages est actuellement en prison. C'est l'ancien président Lula avec 30% d'intention de vote. Bonjour Gaspar Estrada.
Bonjour.
Vous êtes le directeur exécutif de l'OPAC, l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. D'abord, quels sont les risques pour l'ancien président Lula en prison de voir sa candidature invalidée ?
Alors, il s'agit de risques élevés, puisque en 2010, le propre président Lula avait fait voter une loi.
Oui, c'est lui-même qui l'a créée, cette loi.
Bon, disons qu'elle a été portée par la société civile brésilienne, mais elle a été votée par le Parlement lorsque Lula était président. Et c'est une loi qui empêche tout candidat qui a été condamné en appel tout simplement d'être candidat à tout poste électif.
C'est la loi dite du casier propre.
Tout à fait. En revanche, il y a une jurisprudence assez récente, puisque lors des dernières élections municipales de 2016, plus de 150 candidats qui avaient été condamnés en appel ont malgré tout pu être candidats et ils ont été élus pour ce poste. C'est pour cela qu'il existe aujourd'hui un débat au Brésil, dans les tribunaux, pour savoir si Lula pourrait être candidat ou non.
On devrait le savoir assez rapidement maintenant, puisque le dépôt des candidatures, c'est aujourd'hui.
Oui, mais il y a tout un rite au sein du tribunal électoral. Et il n'est pas impossible que les avocats de Lula puissent porter des recours contre cette condamnation.
Lula donc est incarcéré depuis avril dernier pour son implication dans l'affaire dite Petrobras. Quand Lula crie au complot de la droite, est-ce qu'il a entièrement tort ?
Non, je pense que Lula a de bonnes raisons de crier au complot. Je pense que l'élément central de son accusation et donc de sa condamnation repose sur quasiment rien, puisque le juge Sergio Moro, donc, qui a condamné Lula l'année dernière, l'accuse donc de corruption passive et de blanchiment d'argent. Or, le propre juge reconnaît lui-même dans sa condamnation que ces faits reposent sur des faits indéterminés, ce qu'il lui considère des faits indéterminés. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien dans la condamnation de M. Moro des faits qui lient Lula à un supposé appartement, puisque c'est le centre de l'affaire, ce fameux appartement. Sauf que cet appartement, Lula, il n'y a jamais habité, il n'a pas loué, il n'a pas non plus vendu, il n'a même pas le titre de propriété de cet appartement. Donc je pense qu'il y a en effet des raisons pour être inquiet par rapport à cette condamnation, d'autant plus que cela fait suite à ce qui s'est passé en 2016. Dilma Rousseff a été destituée.
Elle-même victime de la même affaire.
Oui, sauf que Dilma Rousseff n'a jamais été inquiétée pour des faits de corruption, ce qui n'est pas le cas de son remplaçant Michel Temer.
Ce qui n'a pas empêché d'être destitué. Lula a été président du Brésil de 2003 à 2011. Pourquoi, 7 ans après, est-il autant adulé, et pas seulement par la gauche brésilienne ?
Bon, je pense que Lula, durant ses deux mandats, a réussi quelque chose d'assez inédit, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait du progrès social, du progrès économique, c'est-à-dire que 36 millions de personnes sont sorties de la pauvreté. Malgré tout, les indicateurs économiques du Brésil étaient au beau fixe, notamment parce qu'il y avait un cycle de matières premières qui était à la hausse. Donc cela a permis au Brésil d'exporter davantage et donc d'avoir plus de ressources. Mais il y a eu aussi une vraie efficacité des programmes sociaux qui ont été mis en place par le président Lula. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, les Brésiliens souhaitent revenir justement à cette ère Lula.
Alors pour cette élection présidentielle en octobre prochain au Brésil, le second favori, c'est le candidat d'extrême droite. Il s'appelle Jair Bolsonaro. Il fait campagne en s'appuyant sur des courants évangéliques et sur l'armée. Quels sont ses arguments ?
Bon, ces arguments portent sur une volonté de revenir à l'ordre, puisque aujourd'hui le Brésil vit une crise politique, une crise économique, une vraie crispation sociale, avec une hausse importante des taux de criminalité, et donc il y a un véritable ras-le-bol de la société. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui le président Temer a 3% d'opinion favorable, ce qui est quand même assez inédit dans une démocratie. Et donc, de ce point de vue-là, M. Bolsonaro prône ce retour à l'ordre. Il est lui-même un ancien militaire et donc il présente des mesures assez radicales dans une société où finalement les institutions sont très peu respectées.
Oui, sauf que ce second favori de la présidentielle, candidat d'extrême droite, ne connaît pas grand-chose aux affaires commerciales. Et c'est un peu embêtant quand on veut représenter la sixième puissance économique mondiale.
Je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense que cela sera un de ses principaux handicaps lors de la campagne présidentielle à venir, puisqu'on voit bien que à chaque fois que des journalistes, que la presse fait son travail et pose des questions sur le fond, Monsieur Bolsonaro est incapable de donner des réponses. Et je pense que cela sera difficile, disons que cela va empêcher visiblement à Monsieur Bolsonaro d'aller au-delà de l'électorat qui aujourd'hui lui est fidèle.
Une question plus large sur la corruption en Amérique latine, que ce soit le Brésil, l'Argentine, le Pérou, la Colombie, il y a plus d'une dizaine d'ex-présidents sud-américains éclaboussés par les affaires. L'Amérique latine est-elle condamnée dans ce registre à un éternel recommencement ?
J'espère que non, mais malheureusement, on voit bien que les années passent et les fêtes persistent. Je pense que la question centrale, c'est la question de la relation de promiscuité entre l'argent et la politique.
C'est pas seulement l'Amérique latine, c'est valable pour la planète, ça.
Absolument. Le problème, c'est que dans certains pays, il y a eu des hommes politiques, il y a eu des parlementaires qui ont eu le courage de réformer le mode de financement des campagnes électorales, puisque lorsqu'on parle de l'affaire Petrobras, il s'agit de manière centrale de la question du financement des campagnes électorales. Et tant que ces réformes n'ont pas lieu, eh bien, pour moi, il n'y aura pas de véritable changement en Amérique latine.
Élection présidentielle au Brésil en octobre. Si ce n'est pas Lula pour le Parti des Travailleurs, ce sera un plan B. Il s'appelle Fernando Haddad. Et ce ne sera pas la même ferveur, semble-t-il. Merci beaucoup, Gaspar Estrada, directeur exécutif de l'OPAC, l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Merci d'être passé par France Inter et bonne journée.